Alors bonjour.
Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'immigration, mais particulièrement de l'immigration de la population arménienne dans le début des années 1900. J'ai avec moi Charles qui va nous raconter l'histoire de son grand-père qui a fui l'Arménie. Donc bonjour Charles.
Bonjour, je m'appelle Charles Albandian. Je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père maternel, qui s'appelait Sarkis Kessapian. Pourquoi je me suis intéressé? Parce que mon grand-père, dans les années entre 1915 et 1920, a perdu toute sa famille. Disparu, égaré, mort, on ne sait pas. Et dans le monde entier, on a des gens qui sont éparpillés sous tous les continents, donc il est possible que le restant de cette famille soit ait émigré à quelque part dans un pays, Amérique du Sud, États-Unis, on ne sait pas.
Et donc l'idée c'était éventuellement de les retrouver.
Et bien sûr, de retrouver cette famille. Donc mon grand-père a écrit ses mémoires. C'était pas quelqu'un qui n'était pas un intellectuel, mais il a eu le temps, puisqu'il a été en prison quelque temps, il a eu le temps d'écrire ses mémoires. Et jusqu'à son décès, il a cherché, dans le monde entier, il a cherché à retrouver sa famille. Et je me souviens, le jour de son décès, il était encore persuadé que sa famille était en Grèce. On n'a jamais retrouvé de traces de sa famille, que ce soit en Grèce ou ailleurs. Et moi, maintenant, j'ai pris le relais depuis donc 20 ans, mais plus, 30 ans, c'est moi qui cherche.
Très bien.
Mais bon, je n'ai toujours rien trouvé. Et je pense qu'ils ont été décimés à l'époque. Et j'ai retrouvé des gens du même nom, mais qui ne correspondent pas à sa famille qu'il avait. Donc, mon grand-père habitait sur les bords de la mer Noire, vers Trebizond, dans la région de... C'est un village qui s'appelait Çarşamba. Et sa mère venait de décéder, il avait 18 ans, son frère en avait 10 de moins, il avait 4 sœurs avec lui, et donc 3 beaux-frères. Et un jour, les autorités, en 1915, les autorités, un peu avant, on leur avait dit de se convertir, il fallait qu'ils se convertissent, bien sûr, à l'islam, s'ils voulaient continuer à vivre dans ce pays. Mais un jour de 1915, on leur a dit de préparer leur bagage et qu'ils allaient être transférés dans une autre région. Et qu'ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient avec eux et qu'ils allaient partir. Et comme ça, ils ont réuni tout ce qu'ils pouvaient mettre sur un chariot avec deux bœufs et ils sont partis à pied sur les routes, escortés par des gendarmes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient quand même épuisés à la fin de la journée parce qu'on les faisait marcher et souvent, on leur faisait faire des détours et des retours pour les fatiguer et pour éviter, essayer de les faire mourir sur place. Et c'est ce qui se passait souvent quand ils avaient fait pas mal de kilomètres et de journées. Il y a des gens qui prenaient des maladies puis qui mouraient le long des routes. Ils traversent la moitié de la Turquie et ils arrivent jusqu'à Malatya. Malatya, où ils essayent de s'installer. Bon, son petit frère tombe malade et il va à l'hôpital. Et lui essaye d'aller dans une ferme et trouver du travail. Donc il part un peu plus loin. Et quelques temps après, il revient et il ne retrouve plus personne. Et il ne voit qu'une chose, c'est que de l'hôpital où était son frère, on jetait les malades dans des chariots et on les emmenait à l'extérieur de la ville dans un trou pour les brûler.
D'accord, les malades.
Les malades et des gens qui étaient morts déjà, mais même des vivants. Là, il s'est pas trop approché, il s'est même caché. Donc, il travaille chez un dur, il fait l'ouvrier de ferme, mais tout en essayant de rechercher sa famille, qui n'en trouve pas. C'est le 14 août 1915, est arrivé l'ordre de partir. On leur donne l'ordre d'évacuer et on les emmenait ailleurs. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la destination finale, c'était faire plus de 800, presque 1 000 km à pied. Et la destination finale, c'était le désert de Syrie. On les abandonnait dans le désert, sans eau, sans rien, ils mouraient sur place. Bon, il y en a qui ont résisté quand même, qui sont arrivés à s'en sortir, la preuve. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont émigré quand même, et qui ont compris, surtout. Donc, il reste pendant quelques temps dans cette ville de Malatia, où on essaye de le marier une première fois, il veut pas. On lui présente une autre famille, quelqu'un, une femme, lui présenter une autre famille qui est ma grand-mère, qui a été ma grand-mère après, et il se marie avec. Donc ils trouvent une maison, mais ils ont rien, ils dorment par terre. Ils ont ni lit, ni ustensiles de cuisine, ni rien du tout. On leur donne deux, trois choses, ils arrivent à vivre quelque temps comme ça, avec donc sa femme, sa future femme, son beau-frère, sa belle-sœur. Un jour, il est rattrapé par les gendarmes, parce qu'il était en âge d'être à l'armée, et il est pris, et on le renvoie à Diglanagué, Diyarbakir, ça s'appelle, à l'armée. Et il se retrouve, soi-disant, il est ébéniste, menuisier. Apparemment, il devait se débrouiller pas mal, puisqu'il fait il est affecté à des travaux de menuiserie dans la caserne. Et puis, le temps passe quand même. Il attire une certaine confiance. Et puis, sous prétexte, au bout de quelque temps, sous prétexte de faire aiguiser sa scie, il se fait ouvrir les portes de la caserne et se sauve. Et il fait 100 km à pied. Et il retourne, il arrive épuisé chez lui, quoi, avec sa femme et ses beaux-frères. En arrivant, personne n'en croit ses yeux en le voyant. Et en arrivant, il est tellement épuisé, il tombe par terre, épuisé de fatigue. Il se repose quelques jours, et puis il ne peut pas rester comme ça, il est déserteur. Donc, avec des faux papiers, un faux passeport, il décide de partir pour Alep, en Syrie, parce que Alep et après Beyrouth sont sous protectorat français. Donc, en étant là-bas, ils étaient plus facilement en liberté que s'ils se retrouvaient en territoire turc où ils risquaient d'être repris et ramenés au casernement et peut-être même fusillés ou tués tout simplement. Hein. Il arrive tant bien que mal, avec deux, trois autres collègues qui le font chanter, parce qu'ils savent qu'il a des faux papiers, ils le font chanter sous prétexte de lui soutirer de l'argent. Il leur promet qu'il allait leur donner arrivé à Beyrouth, mais il leur a jamais donné l'argent. Il les a quand même eu un petit peu. Il arrive à Beyrouth, où il retrouve des gens qu'il connaît, qui l'aident, parce que bon, ils sont sur les routes sans rien du tout, hein, qui l'hébergent, tant bien que mal, il arrive à faire venir sa femme son beau-frère, belle-sœur, qui se retrouve à Beyrouth, et qui se retrouve, quand il se retrouve à Beyrouth, c'est des camps de réfugiés, comme on voit à l'heure actuelle les camps qu'on a vus en Syrie, en Irak, c'est les mêmes, avec des tentes. Maintenant, elles sont modernes, mais à l'époque, c'était des des bouts de chiffon qui les protégeaient seulement avec deux, trois bouts de morceaux de bois. Donc, il arrive à avoir un laissez-passer, comme beaucoup, parce que la France manquait de main-d'œuvre. Après 1914, il manquait beaucoup d'hommes pour travailler dans les usines. Et il vient avec un contrat de travail quand même. Donc il vient, il arrive à Marseille, et arrive à Marseille, il commence à s'installer. Il remonte un petit peu jusqu'à Bolène, ils arrivent à Uzès où ils travaillent dans une briqueterie. Uzès, c'est dans les Cévennes. Et puis, on leur parle de Saint-Chamond où il y avait du travail. Alors, ils sont venus voir à plusieurs et ils ont vu cette ville de Saint-Chamond qui était à l'époque en 1923, qui n'était pas la ville d'aujourd'hui, qui n'était pas urbanisée comme maintenant, qui était très verte et qui lui rappelait un peu ses montagnes de chez lui. Et il a trouvé ça très joli. Et effectivement, il y avait beaucoup de travail. Parce qu'il y avait les usines de qui s'appelait la CAFL à l'époque, qui fabriquait de l'armement et qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ils ont décidé de venir à plusieurs et s'installer. Et il a fait venir sa famille après. Et beaucoup d'autres sont venus parce que de bouche à oreille, en disant aux autres de venir parce que c'était un endroit qui était bien et qu'il y avait du travail, les autres sont venus. Et c'est pour ça qu'on a une communauté qui était importante à Saint-Chamond. Pour l'industrie, et Saint-Étienne aussi, pour l'industrie et les mines. Donc on a une communauté à Saint-Chamond et à Saint-Étienne pour ça. Aussi bien que à Décines, on a à côté de Lyon, on a une grosse communauté parce que là-bas aussi il y avait des soirées et il y avait beaucoup de boulot. À Vienne par exemple aussi, qui était le cheminement normal de la remontée de la vallée du Rhône, c'était Marseille, Aix-en-Provence, Valence, Vienne, Lyon, et après Paris. Donc c'était le cheminement de cette communauté, de cette immigration arménienne. Chacun a essayé de trouver sa place dans ces villes. Ils sont installés à l'endroit où ils ont trouvé, où ils étaient bien, et ils ont trouvé du boulot, surtout, du travail. Donc, étant bien que mal, la vie avançait, on travaillait dans les usines, mais arrivait la crise de 29, on a dit aux étrangers, sortez des usines, de partir, pour aller garder le travail pour les Français. Les Arméniens n'avaient plus de pays et ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc on leur a autorisé à faire du commerce, alors que les étrangers étaient interdits de commerce avant. Et on leur a autorisé à faire du commerce, et ils se sont mis beaucoup à avoir des petits magasins, à être coiffeur, tailleur, faire les marchés. C'est pour ça qu'on retrouve, on dit, les Arméniens sont des commerçants. Oui, même à l'époque, c'était des grands commerçants, mais ils se sont retrouvés obligés de faire du commerce, donc ils se sont retrouvés dans le commerce par obligation. Et ils ont évolué comme ça. Les premières générations ont fait du commerce, les enfants ont grandi, ont été à l'école, ont suivi des cours à l'université, et puis maintenant il n'y a plus de commerçants pratiquement, on trouve des avocats, des gens de toutes sortes. Hein. Il y a encore, bien sûr, des commerçants, mais on trouve toutes sortes de gens dans tous les métiers. Donc, il y a eu une intégration parfaite au niveau du travail en France. La génération de nos grands-parents ont toujours pensé pouvoir repartir chez eux. Mon grand-père qui était presque voué à la mort, s'est retrouvé tout seul, a réussi quand même à fonder une famille d'une vingtaine de personnes Ah, c'est un chameau. Voilà l'histoire à peu près de mon grand-père. Bon, résumé un petit peu, hein, mais.
Eh bien, je vous remercie pour ce témoignage. Et puis, ben, éventuellement, à une prochaine fois, pour connaître peut-être plus en détail cette histoire. Merci.